Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec un débat ce soir, la fronde entre opposants au pass sanitaire et gouvernement français. La pilule va-t-elle passer et si oui, à quel prix? Nous en débattrons dans un instant, mais faisons un détour par la Guinée pour écouter notre invité décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Voici 10 mois que la Guinée a fermé ses frontières terrestres avec 2 pays voisins, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Celles avec le Sénégal sont en voie d'être rouvertes après la Sierra Leone en février dernier, mais avec la Guinée-Bissau, c'est plus complexe. Qu'est-ce qui fait problème?
Effectivement, le gouvernement guinéen a pris la décision il y a bientôt 1 an de fermer les frontières avec certains de nos voisins, notamment la Sierra Leone, le Sénégal, la Guinée-Bissau, pour des raisons de sécurité, mais surtout la stabilité de notre pays en ces moments qui étaient extrêmement tumultueux à cause des crises politiques à l'époque.
Une crise politique déclenchée par la question du troisième mandat du président Alpha Condé.
Il y avait un débat sur la Constitution. Je vous rappelle que ce débat dure depuis la transition. Le gouvernement guinéen a donné des informations, je vous l'ai dit tout à l'heure, et un certain nombre de préoccupations avaient été soulevées par nos autorités. Essentiellement, la mise en place d'un comité de surveillance permanent au niveau des frontières, donc les patrouilles mixtes, pour permettre aux autorités des différents pays d'avoir des échanges d'informations afin de pallier à toutes les questions de sécurité. Donc, avec la Sierra Leone, on a réglé le problème. Et le Sénégal, effectivement, il y a eu, avec l'implication de la CEDEAO et de beaucoup d'autres personnalités à travers notre sous-région, la question est en passe d'être réglée.
Justement, dimanche, le Parlement guinéen a d'ailleurs ratifié un accord l'accord de coopération militaire et technique signé avec le Sénégal.
Tout à fait. Nous l'avons adopté à la majorité et nous attendons le pas du côté du Sénégal. En tout cas, en ce qui concerne la Guinée, au niveau de la majorité présidentielle, nous sommes très ouverts.
À quand donc la réouverture des frontières avec le Sénégal?
Le travail se fait au niveau gouvernemental. Je puis simplement vous dire que côté guinéen, il n'y a aucun problème puisque nous avons signé non seulement l'accord sous l'égide de la CEDEAO, mais aussi l'Assemblée nationale vient de ratifier l'accord de coopération. Ça se fait dans un cadre concerté. Les deux gouvernements travaillent à travers les ministères des Affaires étrangères, de la sécurité et de l'administration des territoires pour arriver à cette réouverture qui, j'espère, va se faire incessamment.
Pourquoi les négociations qui sont en voie d'aboutir à la réouverture des frontières avec le Sénégal ne sont pas jusque-là possibles avec la Guinée-Bissau?
Ben, écoutez, je ne peux pas dire plus, vu que je ne suis pas membre de cette commission. Il y a au niveau gouvernemental un travail qui s'est fait. Maintenant, est-ce que chez nos voisins, il y a un pas vers ce processus de réouverture? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la Guinée, nous sommes disposés, et le président de la République ne cesse de le répéter, il est quelqu'un qui travaille pour l'intégration du continent.
Donc vous dites qu'il y a des discussions en cours, malgré tout, avec les autorités de Guinée-Bissau pour le rétablissement de ses frontières?
Non, je ne le dis pas. Avec la Sénégal, le Sénégal, le débat il est dépassé, c'est réglé, j'allais dire. La Guinée-Bissau, je vous dis simplement que la prédisposition de la Guinée à aller vers une réouverture est certaine. Maintenant, comment le travail se fait au niveau éventuel des comités qui pourront être mis en place à cet effet? On attend.
Le président en exercice de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi, a rencontré vendredi dernier le président Condé à Conakry pour discuter essentiellement de ce dossier de fermeture de frontières avec la Guinée-Bissau. Le président Condé a-t-il pris des engagements concrets?
L'engagement du professeur Alpha Condé pour l'intégration sous-régionale ouest-africaine et africaine d'une manière générale n'a jamais faibli. Il a toujours travaillé dans ce sens. Je ne pense pas qu'il ait besoin de prendre d'engagement pour ça. C'est qu'il faut simplement discuter des modalités pratiques d'ouverture au regard des préoccupations qui ont été soulevées par la partie guinéenne, notamment les raisons de sécurité et surtout la mise en place des commissions de patrouille mixte des deux pays pour permettre à échanger en temps réel toutes les informations qui puissent garantir la sécurité au niveau de la sous-région, parce que vous savez que nous sommes en train de lutter contre le terrorisme et beaucoup d'autres formes de violence aujourd'hui dans la sous-région. Il est tout à fait important que les autorités se dotent d'instruments leur permettant, n'est-ce pas, de juguler les efforts en vue de faire face à l'ensemble de ces questions de sécurité dans la sous-région.
La Guinée avait décidé de fermer ses frontières unilatéralement en raison du contexte politique, mais depuis, les élections sont passées. Maintenir fermées les frontières avec la Guinée-Bissau ne peut-il pas être perçu comme l'expression d'une certaine fébrilité du côté de Conakry ?
Non, pas du tout. D'abord, il n'y a pas eu de fermeture unilatérale, comme vous le dites. Non. La Guinée a écrit à tous ces pays et les éléments d'information existent. Je crois que tout le monde le sait. Maintenant, il n'y a pas eu de suite. Vous savez quand même que sur les questions de sécurité, il y a une question de souveraineté. Chaque État a la possibilité, a le droit de prendre des mesures qui assurent non seulement la sûreté du pays, mais la sécurité des citoyens.
10 mois après l'élection du président Alpha Condé, pourquoi les frontières avec la Guinée-Bissau restent-elles fermées ?
Mais les questions de sécurité sont permanentes, madame. Le terrorisme est un problème permanent. Ce n'est pas simplement à cause de l'élection qu'on ferme une frontière. Il n'y a pas de fébrilité en réalité, pas du tout.
Souleymane Keïta, merci beaucoup.
Merci, madame.
Député et un des porte-parole du RPG, parti au pouvoir en Guinée, à Conakry.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Une fois de plus, bienvenue et voici le grand rendez-vous. Il y a une semaine exactement, le président Macron annonçait de nouvelles mesures pour inciter à la vaccination contre le Covid-19, alors que le variant Delta, plus contagieux et plus dangereux, d'après les experts, expose la France à une quatrième vague. Ces mesures concernent notamment des restrictions d'accès à certains lieux ou événements aux personnes non vaccinées. Et pour certains, c'est une forme d'obligation vaccinale. Résultat, des milliers de Français ont manifesté contre cette obligation vaccinale. Et le gouvernement est resté droit dans ses bottes, puisque le texte qui rendra le pass sanitaire obligatoire a commencé son parcours parlementaire ce lundi. Jusqu'où ira la fronde entre opposants au pass sanitaire et gouvernement ? Et nous allons également nous demander ce soir si la pilule va passer et si oui, à quel prix ? Et tout cela avec nos invités. Ils sont trois pour cette émission. Docteur Massamba Sassoum Diop, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne en région parisienne. Nous avons également le plaisir d'accueillir professeur Georges Alfred Kizerbo. Professeur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Merci d'être avec nous, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Vous êtes en ligne de Conakry, la capitale. Et avec nous ici en France, Patrick Pelou, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France, AMUF. Et c'est d'ailleurs avec vous que je commence, docteur Pelou. On va d'abord voir quelques chiffres très rapidement de Santé publique France sur les contaminations au Covid-19. Le dernier bilan pris le dimanche 18 parle de 12 532 nouveaux cas en 24 heures. Et les experts avancent que nous ne sommes pas à l'abri d'une quatrième vague, peut-être même d'ici août en plein été. Et justement, docteur Pelou, c'est cette peur du pire et le souci d'anticiper qui ont poussé Emmanuel Macron à faire ces annonces, en tout cas pour les défenseurs de ce pass sanitaire. Mais pensez-vous qu'il aurait, malgré tout, malgré ces chiffres alarmants, pu éviter ou retarder ces annonces ?
Non. C'était nécessaire de les faire. Tout n'est en France et sûrement pas dans le monde.
Docteur Pelou, on ne vous entend pas bien. J'espère que ça va s'améliorer. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît.
Oui, je disais, il était temps de prendre ces mesures parce que justement, ça posait des problèmes parce que l'épidémie n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée en France, elle n'est pas terminée à travers le monde. Et le variant Delta est très inquiétant, d'accord ? Si ce n'est ce qui peut être rassurant, c'est que le vaccin est efficace sur le variant Delta. Et c'est pour ça que le président de la République a pris de bonnes décisions en disant qu'il fallait commencer à songer, à obliger, notamment les soignants, à cause de la contamination dans les établissements de santé. C'est pas que les soignants contaminent volontairement, c'est juste que ça s'appelle le Covid nosocomial et des transmissions inhérentes au métier que nous avons. Il fallait passer à ça, il fallait passer à la gamme au-dessus. Sinon, en effet, si on écoute tous les imbéciles qui disent n'importe quoi sur le vaccin et l'épidémie, on se retrouvait à coup sûr avant...
Docteur Pelou, quand vous dites...
Avec une épidémie...
Oui, vous dites les imbéciles, ce sont vos mots, hein, qui disent n'importe quoi sur le variant, mais parmi eux, il y a aussi beaucoup de vos collègues qui ne sont pas tout à fait en phase avec les mesures du gouvernement.
Mais vous savez, être médecin, c'est petit d'intelligence. Hein.
Très bien. Docteur Massamba Diop, vous êtes à cheval hein, entre le Sénégal et la France. Il y avait aussi cette réalité. Depuis le 12 juillet, on observe que le nombre de départements qui dépasse le seuil d'alerte fixé à 50 contaminations pour 100 000 habitants est passé à 12 à 37. Mais jusque-là, il y en a qui pensent que le gouvernement ne devrait pas, ou le président Macron n'aurait pas dû imposer ce pass sanitaire dont je disais, qui a commencé son parcours parlementaire aujourd'hui.
Oui, je vous ai dit bonjour tout à l'heure, je dis bonjour aussi aux deux autres personnes qui sont avec nous et puis à tous les auditeurs déjà. Et sinon, effectivement, je pense que je serais peut-être un peu moins direct, mais encore que je suis fort d'accord avec Patrick Pelou. Je pense qu'à un moment, et je vous en ai déjà parlé, si vous vous souvenez bien, il y a deux mois, à un moment, il faut être sérieux. Ça choque personne. Vous savez, nous, en plus, parce que je veux dire, sur les deux pays, en Afrique, quand on voit les personnes qui ont eu la poliomyélite, quand on voit les conséquences, ce qu'a pu être à l'époque la variole et tout, quand on sait que la moitié de l'espérance de vie a été gagnée, de la mortalité a été gagnée par les vaccins dans le monde, hein, dans l'humanité, à un moment, faut être sérieux. Là, on a vu les conséquences.
Mais là, vous parlez de vaccins contre la poliomyélite. D'autres estiment qu'il n'y a pas assez de recul et que c'est assez abusif de parler de vaccins pour ce qui est de ce qu'on administre pour.
C'est la définition
contre la COVID-19.
C'est la définition même d'un vaccin, sauf qu'au lieu d'injecter le virus lui-même, on injecte l'ARN messager. Si on expliquait simplement aux patients ce que c'est, déjà, ils comprendraient beaucoup mieux et du coup, ils accepteraient beaucoup mieux. C'est déjà ça. On ne verrait pas ces choses ridicules avec ces histoires de portables qui restent collés au bras ou je ne sais pas quoi. Là, ne vous lavez pas pendant 24 heures ou 48 heures. Et prenez votre portable, collez-le, il va se coller au bras.
D'accord.
Mais sinon, pour être sérieux, je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte que regardez, quand vous parlez justement de « on n'a pas de recul », vous avez déjà vu 3 milliards de personnes vaccinées, avec un recul déjà de presque un peu moins d'un an pour certains. On a 3 milliards de personnes, je ne parle même pas des études initiales, et je parle là aujourd'hui de vraies vaccinations, mais c'est de la grandeur nature. Et on a au contraire les résultats de toute la pharmacovigilance, parce que je peux vous dire qu'elle est très importante. Et partout, elle est en Europe, elle est aux États-Unis, et nous en Afrique, au Sénégal, il y a une pharmacovigilance de chaque cas. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui a telle ou telle complication à essayer d'étudier ? Donc à un moment, même si effectivement on n'est pas sur un virus qui va détruire l'humanité, on est quand même sur un virus qui a des conséquences qu'on a vues.
D'accord, docteur Diop, là vous défendez le vaccin. Notre débat, si je peux me permettre, c'est bien circonscrit sur le pass sanitaire imposé et contre lequel s'insurgent contre Français. Est-ce que vous êtes donc vous partagez malgré les réalités des chiffres l'idée selon laquelle le président Macron a eu raison de rendre cela quasiment obligatoire?
Suivez mon raisonnement. À partir de ce moment-là, si vous écoutez bien mon raisonnement, et c'est pour ça que je passais par là, ça veut dire qu'une fois qu'on se rend compte de la situation et de la presque du côté presque non risqué de la vaccination, il semble évident qu'aujourd'hui, il faut un équivalent de pas, c'est-à-dire ou la rendre totalement obligatoire, ce qu'on aurait pu même envisager, mais ou tout simplement dire aux citoyens,
merci.
Vous avez quand même une certaine liberté, et cette liberté, c'est celle-là, c'est qu'en tout cas, nous, État, on ne peut pas vous autoriser à aller à tel ou tel endroit si vous n'êtes pas vacciné.
Merci.
Ça, je pense un minimum sur le plan santé publique.
Professeur Kizerbo, vous partagez entièrement ce qu'ont dit vos prédécesseurs?
Merci, madame. Je salue mes collègues. Je pense que nous vivons une pandémie et il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose qui n'arrive pas aussi souvent que ça. Et c'est quelque chose qui menace en fait la sécurité humaine. Mais c'est une menace à la sécurité humaine à l'échelle du globe. Donc, il faut prendre la mesure de cette menace-là et savoir que les mesures de santé publique et les mesures sociales que les gouvernements et les institutions, les communautés prennent depuis plus d'un an maintenant, sont des mesures de sauvegarde, c'est des mesures pratiquement de survie. Et donc il y a un coût à payer pour ces mesures-là et il faut balancer en effet ce coût à payer avec les gains qu'on en tire, c'est-à-dire les gains, c'est le bien commun, la santé qui est un bien commun. Et aussi,
mais sauf que ce que vous défendez, monsieur,
l'économie pour
ceux qui sont contre ce pass sanitaire comprennent bien cela, mais le problème, c'est qu'ils disent que pourquoi nous oblige-t-on à nous faire vacciner ? C'est en quelque sorte ce qu'ils dénoncent. Ils ne mettent pas en cause les bienfaits que vous venez de mentionner du vaccin.
Personne n'est obligé de se faire vacciner dans l'absolu. Mais ce qu'il est important de faire comprendre aux individus et aux collectivités, c'est qu'en se vaccinant, non seulement on se protège soi-même, mais il y a une autre dimension, c'est la dimension collective. Et c'est là où on touche à l'immunité collective, à la protection collective de sa famille, d'abord de ceux qui nous sont proches. Aujourd'hui, 99% des infections dans les pays qui ont une forte couverture vaccinale, 99% des infections à COVID sont chez des sujets non vaccinés. Donc il faut reconnaître ça. Ça, c'est un élément de santé publique très important qui veut dire que si le virus continue à circuler, il va circuler parmi les personnes vulnérables qui ne se sont pas fait protéger par le vaccin et qui continuent à mettre les autres en danger avec les vagues successives. Voilà, c'est ça la réalité, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens.
Merci. Docteur Pelou, alors, quand j'écoute le professeur Kizerbo, il dit qu'ils exposent les autres, ils s'exposent eux-mêmes, mais ceux qui sont contre cette obligation vaccinale avancent aussi des raisons selon lesquelles même les personnes vaccinées ne sont pas à l'abri. Et que la seule chose contre laquelle ils sont protégés, c'est la forme grave. Même vaccinés, on peut contacter le virus, on peut en transmettre.
Pas du tout. C'est totalement faux. C'est très difficile parce que, si vous voulez, vous parlez d'une toute petite minorité. Hein. La manifestation qu'ils ont faite, il y avait à peine 100 000 personnes sur l'ensemble du territoire français. D'accord.
Vous estimez du coup, ils ne méritent pas d'être, leur point de vue ne mérite pas d'être pris en compte.
C'est pas ça, madame. C'est que vous posez ce qu'ont dit les deux interlocuteurs précédents, c'est tout à fait juste. Vous opposez des imbéciles. Le vaccin, il sauve des vies. Alors vous parlez que on pourrait transmettre. C'est faux, madame. C'est faux. Ça a été mesuré. C'est moins de 10 secondes pendant lesquelles le virus y tient sur la muqueuse oropharyngée de quelqu'un de vacciné. Vous voyez le truc ? C'est-à-dire que d'un coup, moi je veux bien que vous donniez la parole à des gens qui sont tout à fait honorables par ailleurs et qui disent n'importe quoi. Mais à ce moment-là, on arrête tous les vaccins. Ce qu'a dit le professeur tout à l'heure est tout à fait juste. Arrêtez les vaccins en Afrique sur la poliomyélite. Vous allez voir les résultats. Moi je suis désolé, il s'agit de sauver une... Vous ne croyez pas que les 100 000 personnes qui sont mortes l'année dernière, s'il y avait eu le vaccin, ils seraient probablement encore là ? Donc il faut un moment arrêter. Alors vous parlez du pass, vous trouvez ça scandaleux. Mais moi, je vais vous opposer.
Docteur Pelou, entendons-nous bien. Je me fais le porte-voix des personnes qui sont qui expriment leur opinion et qui sont contre. Ce ne sont pas les miennes. Je fais porte-voix. Je rappelle simplement ce que disent certains de ces manifestants et qui protestent contre... ce qu'ils appellent l'obligation ou l'obligation vaccinale.
Mais vous avez des tas d'obligations, mais à ce moment-là, qui protestent aussi pour le permis de conduire, qui protestent pour tout, et puis vous avez l'anarchie. Il sera beau le pays. Là, il y a une résultante de santé publique. Si le gouvernement ne l'avait pas fait, sans doute que ces 100 000 personnes, vous les auriez eues aussi dans la rue en disant que le gouvernement ne faisait rien. Donc c'est tout, il n'y a pas de débat. Ils ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils ne se vaccinent pas. Et comme a dit l'interlocuteur tout à l'heure, ils ont 80% de chances de plus de faire une maladie grave. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Mais l'obligation va s'imposer d'elle-même, parce que pour prendre l'avion, par exemple, les compagnies aériennes ne vont pas accepter que des gens qui portent le virus et qui risquent de transmettre la maladie rentrent dans l'avion et transmettent la maladie à tout le monde.
Merci.
C'est tout.
Merci,
c'est tout.
Docteur Pelou. On se retrouve dans un instant pour analyser la réponse du gouvernement après les manifestations des opposants au pass sanitaire. À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
La pilule du pass sanitaire va-t-elle passer et si oui, à quel prix? Nous en débattons ce soir avec nos invités Patrick Pelou, médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France, AMUF, Dr Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Il est également médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne, ici en région parisienne. Et nous avons également en ligne de Conakry, professeur Joseph Alfred Kizerbo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Il est à Conakry, évidemment. Docteur Massamba Sassou Diop, est-ce que le président de la République française, Emmanuel Macron, n'est pas pris peut-être dans son propre piège? Parce qu'il y a quelques semaines, il annonçait qu'il ne va jamais, qu'il ne va pas recourir au pass sanitaire généralisé. Cette promesse avait peut-être permis de rassurer les opposants au vaccin. Et voilà que 6 semaines plus tard, il tient un discours contraire.
Alors, moi, j'aurais une réponse assez simple. Il n'y a pas plus idiot que la personne qui ne change pas d'avis. Et en période de Covid, et avec ce qu'on a vu en termes d'évolution dans les connaissances sur le Covid, je vous assure, je pense qu'aujourd'hui, il est clair et net que personne ne peut affirmer quoi que ce soit. On peut donner des directions et s'adapter constamment. Et pour moi, c'est quasiment du niveau, de dire, laissez-moi rouler bourré. Peut-être que je vais tuer des gens, mais c'est mon choix de le faire. Et donc, je crois que c'est aussi important, à un moment, vous voyez, c'est le bien commun. À un moment, il y a des décisions qui doivent être prises par les politiques en disant, il y a tous les avis sur Terre, mais au vu de ce qui se passe sur le plan sanitaire, il est nécessaire de protéger l'ensemble, même si certains ne veulent pas. Et je vous dis, c'est déjà gentil de dire juste c'est un pass sanitaire et non pas une obligation. Et il y a une autre...
Mais cela y ressemble d'après les opposants. Quand on empêche ou quand on demande aux uns aux autres de présenter un pass sanitaire pour aller dans les supermarchés, pour entrer dans un train, pour entrer dans l'avion, le docteur Pelou le disait, est-ce que cela n'est pas une obligation vaccinale déguisée? C'est ce qu'ils affirment, les opposants aussi.
Les gens peuvent faire le Paris-Lille en footing. D'ailleurs, ça les fera un petit peu, ça leur fera faire du sport, ça sera pas plus mal et ça leur fera même être plus en forme si jamais ils ont le virus qui les touche. Et ils se nourriront peut-être différemment et peut-être mieux. En tout cas, je pense qu'il est clair qu'à un moment, il y a des décisions politiques à prendre et je vais même plus loin. Et c'est comme d'ailleurs l'a dit le professeur Kizerbo d'une certaine façon, n'oubliez pas. Là, on l'a vu. On a vu le nombre de variants déjà sont arrivés et vous voyez que les variants commencent à poser les uns après les autres différents types de problèmes. Imaginez un variant qui soit comme le SARS à l'époque, comme le MERS virus, qui tue, je dis bien, 30%, y compris les jeunes, 33% des gens atteints. Je peux vous dire que tous ceux-là qui sont en train de dire « moi, jamais, moi, je ne veux pas, moi, je suis », ce sont les premiers qui vont aller se précipiter lorsqu'ils vont voir un tiers de leur famille décédée, un tiers de leurs amis décédés, un tiers des personnes qu'ils verront au travail décédées, ce sont les premiers qui vont aller courir et dire « mais comment ça se fait que moi je ne peux pas me vacciner aussitôt ?» Donc à un moment, et puis il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. Et si on disait aux gens « ok, vous ne vous vaccinez pas, mais si jamais vous allez en réanimation, vous en assumez le coût. C'est vous qui allez payer la journée à 3 500 € de réanimation. Pourquoi c'est le risque?
C'est-à-dire que vous dites que l'autre extrême serait de dire que la sécurité sociale ne prendra pas en charge les personnes éventuellement qui ont contracté le Covid et qui feraient la forme grave si elles n'étaient pas vaccinées.
C'est leur choix, à la limite. On pourrait dire, écoutez, c'est votre choix. Vous avez ce choix, mais pourquoi c'est la communauté qui paye pour vous alors que c'est un choix dont on sait pertinemment qu'il va engendrer, si jamais vous êtes malade, un coût énorme à la communauté. À un moment, la solidarité, on ne peut pas être individualiste à ce point tout le temps et
d'accord,
ne penser qu'à soi.
Merci.
Moi, c'est mon avis.
D'accord. Professeur Kizerbo, êtes-vous aussi sévère à l'égard des personnes qui manifestent contre ce pass sanitaire. C'est l'impression que j'ai en écoutant Dr Diop et Pelou.
Je crois que ce que les collègues sont en train de dire, ma compréhension, c'est que les mesures de santé publique et les mesures sociales sont en train d'être modulées en face de la menace qui se fait jour. Si vous vous rappelez, il y a eu des phases de confinement total, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je crois que c'est un moyen terme à chaque fois entre une certaine liberté individuelle et ce bien commun qui est la préservation de la sécurité humaine à travers la sécurité sanitaire. Donc je pense que les États, les gouvernements obéissent à ce titre aussi à des prescriptions qui sont globales comme les prescriptions du règlement sanitaire international. La dernière réunion du comité d'urgence du règlement sanitaire international a demandé à tous les gouvernements qui font partie de ce traité-là ou de cet engagement global de mettre en œuvre une approche de gestion des rassemblements de masse en évaluant et en atténuant au maximum les risques, tout en communiquant sur les risques. Et je pense que c'est la communication sur les risques qui n'est pas facile quand on fait face à des personnes qui sont sensibles à des théories parfois carrément complotistes ou à des théories non validées qui ne répondent pas à des évidences scientifiques. Merci. Mais il ne faut pas les mettre à l'écart. Il faut aussi s'adresser à eux et continuer la persuasion, même si on
Docteur
sait qu'il
disait,
y aura toujours une frange qui sera réfractaire.
Il semblait dire le contraire, parce que je parlais tout à l'heure à la pause de la réaction du gouvernement. On a entendu le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, minimiser les manifestations et qualifier les anti-vaccins de franges capricieuses et défaitistes très minoritaires qui se satisfait bien de rester dans le chaos et l'inactivité. Des propos comme cela.
Il y aura toujours des personnes qui auront cet esprit-là. Mais je crois que ça n'empêche pas de parler, par exemple, quand on s'adresse au personnel de santé, ils peuvent comprendre les risques qu'eux-mêmes ils courent et qui font courir.
Mais quand on entend de tels discours d'un représentant d'un porte-parole du gouvernement, est-ce que c'est de nature à...
Quand 800 000 personnes se présentent pour se faire vacciner en une journée, ça veut dire que des messages positifs peuvent passer. Et ça a marché.
Bon.
Voilà, je pense que c'est ce qu'on encourage.
Docteur Pelou, est-ce que vous m'entendez?
Oui,
je vous interpelle sur la réponse du gouvernement sur la manifestation à la manifestation de ceux qui sont opposés à l'obligation vaccinale. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est de nature à rassurer sur l'envie du gouvernement d'utiliser la sensibilisation pour convaincre?
La position du gouvernement est juste, mais jamais vous réussirez à rassurer ces gens. C'est pas la peine. Moi, j'ai essayé d'avoir des débats avec des complotistes qui sont convaincus que la Terre est plate, qu'on n'a pas marché sur la Lune, que les vaccins mettent des trucs totalement délirants. C'est pas possible, vous savez. Non, mais vous savez, on n'a pas 100% dans une population, hein, donc quelque part, mais vous avez raison. Il faut accepter d'avoir des gens qui sont tellement marginalisés dans l'intelligence, qui sont au-delà de la compréhension. Voilà, faut pas s'arrêter à ça. Je pense que ce qu'il faut, peut-être qu'un des combats qui est à mener à l'heure actuelle et dont la France devrait continuer, c'est justement que le vaccin soit beaucoup plus accessible dans des pays en voie de développement ou qui sont vraiment dans de la grande...
Mais là, la vitesse est vraiment pire qu'à pas de tortue, Dr Pelou. Ça, c'est une autre affaire. Alors, revenons à la France. Est-ce que l'obligation vaccinale, finalement décidée par Emmanuel Macron, en quelque sorte, ou le pass sanitaire, si vous voulez, ne traduit-elle pas l'échec de la communication et de toutes les campagnes de sensibilisation du gouvernement?
Non. Non, pas du tout. Ça traduit... Ce qui est très compliqué, c'est que vous n'êtes pas sur une temporalité constante. Le virus et son écologie évoluent par à-coup. Et donc, il a fallu adapter progressivement la politique de santé publique au fur et à mesure. Là, on est avec... on n'est pas du tout dans la même configuration qu'il y a quelques mois. On a le vaccin, on a des doses en quantité... il faut accélérer si on veut casser le cycle de l'épidémie et de la pandémie. Donc, il y a une adaptabilité et gouverner, c'est prévoir. Et là, je pense qu'ils ont pu prévoir justement la nécessité d'avoir l'obligation du vaccin et le pass vaccinal. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez, si on revient sur l'obligation des soignants, il y a quand même quelque chose de contradictoire quand vous êtes soignant. Vous dire que vous n'allez pas vous faire vacciner et que vous allez mettre en danger vos patients. C'est quelque chose qui est incompréhensible, en fait.
Merci. Docteur Massamba Diop, malgré donc ces contestations, même si vous affirmez qu'elles sont marginales, le projet de loi rendant le pass sanitaire obligatoire dans certains lieux a été présenté ce lundi en Conseil des ministres et entame un véritable marathon. Il y a des étapes prévues à l'Assemblée nationale. Demain mardi, le texte sera examiné en commission à l'Assemblée nationale. Mercredi, par les députés. Jeudi, ce sera le tour des sénateurs et devrait être adopté définitivement d'ici la fin de la semaine. Mais le débat sur l'application du texte reste. Parce qu'on entend beaucoup de restaurateurs, par exemple, dire « Mon métier, c'est restaurateur, c'est pas policier. » Est-ce qu'il n'y aura pas un problème au niveau du contrôle de ce pass sanitaire ?
Vous savez, moi, je vais être simple. Hein. Je compte sur l'intelligence humaine pour s'adapter, et je pense qu'elle est là. C'est-à-dire qu'au départ, on fait une règle, on fait une loi, on fait aussi le mode d'application. Et ensuite, l'être humain, à chaque fois, va s'adapter. Lorsque on est sur des situations qui sont complètement illogiques, ça sera fait. Et lorsque, et vous verrez que pour l'essentiel, on est d'accord. Mais moi, il se trouve que je suis amené à faire un certain nombre de rapatriements assez souvent. Qu'est-ce qu'il y a ? On prend le QR code, c'est une lecture qui dure, peut-être 10 secondes. Et encore, quand je dis 10 secondes, c'est beaucoup moins.
Mais est-ce que c'est le travail des restaurateurs ou bien des responsables de cinéma
Écoutez, c'est simple. Alors, dans ce cas-là, on va...
Parce qu'il y en a qui disent nous sommes prêts à payer l'amende de 45 000 euros, encore que le Conseil d'État pourrait revoir ce montant à la baisse.
Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites là. Oui. Parce que je vais en arrière. Je vous prends décembre, janvier, d'accord ? Et même avant. On ferme les restaurants pendant un an. C'était le grand désespoir. Est-ce que vous voulez qu'on revienne à une situation où il y a une telle circulation du virus que ces mêmes restaurateurs qui sont là à dire « moi je ne suis peut-être pas policier », on va leur dire de nouveau « vous fermez ». Et je vais encore plus loin. On ne peut pas accepter la solidarité de la nation. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand vous voyez les montants qui ont été versés, en Afrique on n'a pas ça, hein. Quand vous voyez les montants qui ont été versés aux restaurateurs, aux taxis, à toutes les professions, et je trouve que c'est très bien quand un État a les capacités de le faire.
Donc vous estimez que c'est la moindre des choses que d'accepter d'effectuer ces contrôles ?
Mais attendez, mais c'est pour éviter de nouveau qu'ils se retrouvent dans une situation de contrainte à fermer et que ce soit l'ensemble de la communauté, à commencer par vous, à commencer par tous nos auditeurs, de payer pour pouvoir qu'ils aient leur chiffre d'affaires annuel qui soit compensé.
Merci.
À un moment, faut être sérieux.
Merci. Je vais revenir à vous, hein, professeur Kizerbo, dans un instant, mais je souhaite que le docteur Pelou, parce que les deux sont ici en France, réagisse rapidement à cette hostilité exprimée par certains restaurateurs. Par quel moyen faut-il procéder pour les convaincre d'accompagner le gouvernement dans le contrôle de ce pass sanitaire ?
Le pognon, c'est-à-dire s'ils n'acceptent pas ce pass sanitaire, ils remboursent tout l'argent et les milliards qui leur ont été donnés. Tout, mon collègue Dr Diop, c'est d'un coup.
Allô ?
Pour maintenir de leur revenu et pas de...
Navré de vous interrompre, docteur Pelou, vous êtes pourtant avec nous ici en France, mais la ligne n'est pas claire. On va vous retrouver dans un instant pour vous donner la parole et on marque une dernière pause pour nous retrouver dans un instant pour conclure notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Troisième et dernière partie de votre émission, le grand rendez-vous ce soir. Jusqu'où ira la fronde entre opposants au pass sanitaire et gouvernement français? La pilule va-t-elle passer? Et si oui, à quel prix? Nous en débattons ce soir avec professeur Georges Alfred Kizerbo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Il est à Conakry. Docteur Massamba Diop, médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar. Et docteur Patrick Pellou, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France, AMUF. Je crois que monsieur... Est-ce que vous êtes là, docteur Pellou? Pas encore. Alors, je vais me tourner donc vers le professeur Kizerbo à qui je donne la parole. Professeur Kizerbo, il y a cette inquiétude sur l'application de ce pass sanitaire, le contrôle. Est-ce que vous pensez que le moyen financier ou les sanctions financières ou pécuniaires sont les plus adaptées pour... pousser les restaurateurs et d'autres, et les responsables des autres secteurs à faire ce contrôle?
Oui, je pense que je vais faire un commentaire plus général. Je pense que dans toute application de mesures de santé publique et de mesures sociales, je pense que le dialogue est la clé. Et je pense que tous les gouvernants passent par cette mesure-là pour persuader. Mais je crois aussi que la responsabilité est collective. Elle est collective et je pense qu'il faut peser justement le pour et le contre dans l'adhésion à ces mesures-là, qui peuvent paraître contraignantes hein, à court terme, mais quand on les compare encore à ce qu'il a été nécessaire de faire il y a juste quelques mois, et maintenant avec la disponibilité du vaccin, je crois qu'il faut se mettre dans une autre optique et dire que les prochaines vagues ne viendront que des poches de non-vaccinés. Et quand on a compris ça, on peut adhérer à ces mesures-là, qui sont des mesures de préservation. Et aussi, ce qui est important, c'est de dire que toutes les mesures doivent être appliquées ensemble. Il n'y a pas de boulette, de magic bullet. Donc, il n'y a pas d'une seule mesure qui va régler le problème. Donc, autant il faut étendre la couverture vaccinale pour atteindre l'immunité collective, autant il faut l'utilisation des masques à l'intérieur, la distanciation physique, l'hygiène des mains et toutes les mesures qui accompagnent les rassemblements de masse. Donc, je crois que c'est par la persuasion, c'est par les évidences et aussi en démontrant le gain que ces personnes elles-mêmes peuvent avoir et les risques qu'elles courent à retomber dans une catastrophe comme celle qu'on a eue il y a quelques mois, qu'on peut peut-être avancer.
Merci. Docteur Massamba Diop, vous ne semblez pas, en tout cas de ce que j'ai entendu de vos propos, penser que la méthode de la persuasion et de l'explication hein, sur les gains pour les personnes vaccinées, comme le propose le professeur Kizerbo, est le meilleur moyen. Mais à force d'utiliser, justement, je me permets de la répétition, la force et le pouvoir d'État, la répression, le gouvernement français ne risque-t-il pas de finalement avoir des résultats contraires, c'est-à-dire une radicalisation, un risque de radicalisation et de bras de fer sur la durée avec les personnes opposées au pass sanitaire?
Alors, je pense que dans cela, c'est que je me suis mal fait comprendre. C'est-à-dire qu'au contraire, vous savez, j'enseigne à l'université, et j'ai la réputation d'expliquer, réexpliquer, réexpliquer. Mais je peux vous dire qu'à la fin, à un moment, peut-être c'est peut-être l'enseignant qui est pas bon, mais qu'à un moment, lorsque vous êtes confronté à un petit pourcentage de personnes qui sont complètement... c'est pas de l'idiotie, ça veut dire que c'est un mode de fonctionnement. Pour lequel
donc vous le dites, même vos collègues du personnel médical qui s'opposent au pass sanitaire sont des idiots, des imbéciles, comme vous, ce sont vos mots. Hein.
Non, c'est le docteur Pellou qui a dit imbécile.
Vous avez dit idiot, mais le docteur Pellou dit des imbéciles.
Moi je dis qu'à un moment, il y a des modes de pensée, parce qu'une enfance particulière, parce qu'une évolution de vie particulière, d'accord, avec un génome particulier, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui, à un moment, ne peuvent pas entendre, ne peuvent pas écouter.
Et il faut la force. Toute la force publique doit se déployer sur ces personnes.
Mais attendez, si tu le voisin, en vertu de quoi ils ont le droit exactement? Pourquoi ils ne diraient pas « je roule bourré » Pourquoi ils ne diraient pas « je roule sous » Ben, la justice dit non, vous n'avez pas le droit de rouler sous. Dans ce cas-là, il revendique le droit de tuer l'autre. Aujourd'hui, on est en société qui ne peut pas. Et vous savez, c'est vraiment le fait de... Vous savez, on est dans l'exemple même d'un pays, de pays développés, qui sont tellement riches, qui se permettent de pouvoir... Et faussement riches, hein, d'ailleurs, parce que, attention, dans l'évolution dans le temps.
Mais, d'accord, donc, pour résumer, parce que là...
Attendez, juste tellement aisé, qui fait qu'on peut se permettre de faire ça. Mais regardez même les pays asiatiques, c'est très intéressant. Un pays asiatique, un asiatique, quand il est enrhumé, il met le masque pour protéger l'autre. C'est la moindre des choses.
D'accord.
Et est-ce qu'en Europe...
Mais est-ce que le coup politique, si on va donc vous soutenir la force, l'usage de la force pour obliger les personnes... Oui, bon, la force publique, de toute façon, la contrainte. Est-ce que le coup politique pour Emmanuel Macron, à un an de la présidentielle, ne risque pas d'être très élevé?
Bon, alors là, je crois qu'un vrai homme politique, il travaille pour son peuple, il ne travaille pas pour être réélu. Donc, après, si accessoirement il est réélu parce que le peuple a compris et qu'il a pris les bonnes décisions, eh ben c'est très bien. Donc, avant tout, on se dit, moi, je ne veux pas que mes X ou Y personnes décèdent, parce que c'est mon rôle. Maintenant, si mon peuple me comprend, sinon il me comprendra dans 20 ans, dans 30 ans, quand je serai mort ou je ne sais pas quoi, tant pis si c'est le cas. Mais c'est le rôle d'un politique. De prendre des décisions politiques qui ne sont pas forcément...
courageuses, d'après vous.
Sinon, on remet la peine de mort demain en France. Hein.
D'accord.
Si on raisonne comme ça, la peine de mort, c'est demain en France.
Merci. Nous avons perdu Patrick Pelloux. En tout cas, la liaison avec le docteur Pelloux était devenue très, très difficile. Vous en avez été témoin, chers auditeurs. Et nous allons continuer et peut-être conclure avec, en quelques mots, le professeur Kizerbo pour parler d'autre chose. Hein. Docteur, le Covishield, finalement... a été accepté par la France ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'OMS qui n'avait de cesse de rassurer sur l'efficacité de ce vaccin qui était refusé par l'Union européenne, enfin pas certains pays ou la plupart des pays de l'Union européenne?
Oui, non, juste pour rappeler que le Covishield n'est rien d'autre que le vaccin AstraZeneca. Juste, c'est une formule qui est fabriquée ailleurs que sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, sur le plan scientifique, il n'y avait aucune base pour empêcher. Donc, je pense
que. C'était du zèle au niveau. Le zèle de l'Union européenne.
Vous pouvez me laisser, s'il vous plaît.
Oui.
Je vais terminer rapidement. La décision de l'Union européenne permettait aux États membres. Hein, de l'Union européenne de prendre des décisions souveraines. Et je crois que c'est bien que la France ait pris cette décision. Elle n'est pas la seule. Un certain nombre de pays qui l'ont prise.
L'Allemagne, notamment, la Belgique aussi.
Voilà, il y a 9 pays au moins qui avaient, à la semaine dernière, accepté, le Canada aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va permettre de faciliter la mobilité, en particulier aussi d'expatriés français, mais aussi de personnes vaccinées en Afrique, en Inde et sur d'autres continents.
D'accord.
Donc je crois que ça correspond à des évidences scientifiques et c'est une chose salutaire. On espère que l'Union européenne prendra une décision collective à ce sujet.
Maintenant, ma question, docteur Kizerbo, professeur Kizerbo, certains estimaient que l'Union européenne et tous ces autres pays occidentaux qui avaient refusé le... Covishield faisait simplement du zèle. Est-ce qu'il y a eu une pression, je veux dire, des démarches au niveau de l'OMS pour obtenir la décision de la France de reconnaître Covishield ?
Je crois que c'est un plaidoyer au niveau global. L'Union européenne a pu prendre sa décision sur la base des dispositions de son agence, de l'Agence européenne du médicament, qui avait sa propre liste plus courte des vaccins homologués sur le territoire européen. Maintenant, l'attention a été attirée sur cette liste plus longue des vaccins homologués qui ont une autorisation d'utilisation en urgence de l'OMS, dont le Covishield. Et je pense que plusieurs institutions homologues de l'Union européenne, comme l'Union africaine, des gouvernements influents et des influenceurs ont pu jouer leur rôle.
Merci.
Je n'ai pas de détails, mais certainement ça a été une coalition pour aboutir à ce plaidoyer-là.
Merci, professeur Georges Alfred Kizerbo, représentant de l'OMS en Guinée. Vous étiez en ligne de Conakry. Merci à vous. Merci au docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne, ici en région parisienne. Vous êtes également docteur Diop, président de SOS Médecins à Dakar, au Sénégal. Merci à Patrick Pellou, médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France, AMUF, d'avoir participé à ce débat que vous pouvez réécouter à 23h en rediffusion, heure de Paris, 21h, temps universel. Bonsoir.